Bonsoir à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle édition de notre émission Campus Zoom, l'émission qui fait un zoom sur un thème local. Aujourd'hui, nous allons vous parler des associations étudiantes en compagnie de Benoît.
Salut à tous!
Je vais interviewer Manon Siron, présidente de la vie étudiante associative, qui va nous éclairer un peu plus à ce sujet. Tandis que Benoît se chargera d'interviewer deux associations. À titre d'exemple, il s'agira de Univers Ciné pour les passionnés de cinéma et des Violettes qui traitent le sujet des violences.
Et nous allons donc passer immédiatement à l'interview de Marion qui répondra à nos questions concernant les associations étudiantes dans leur globalité.
Alors bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, donc je m'appelle Marion Siron, je suis coordinatrice vie étudiante à l'Université de Pau et j'ai entre autres en charge l'accompagnement de la vie associative étudiante.
D'accord. Quel est votre rôle vis-à-vis des associations étudiantes ?
Alors, je suis personne référente sur l'université, campus de Pau, mais aussi les quatre autres campus de l'université, Bayonne, Anglette, Tarbes et Mont-de-Marsan. Sachant qu'après, il y a des personnes qui relaient directement sur place, mais c'est moi qui coordonne. L'idée, c'est d'être à disposition des assos étudiantes. Alors, soit des associations étudiantes qui existent déjà et qui souhaitent avoir des conseils d'un point de vue administratif, technique, juridique, budgétaire, etc., de leur proposer un accompagnement le plus personnalisé, de les réorienter vers des structures partenaires quand on touche à des questions plus complexes, type une association souhaite créer un emploi, je vais m'appuyer sur un réseau de partenaires pour que les associations puissent s'appuyer sur elles pour monter leur projet. Je vais être aussi à disposition des associations, des groupes d'étudiants qui souhaitent créer une association, une association qui n'existe pas encore et dont certains étudiants ont le souhait d'en voir l'existence, les conseiller, les accompagner sur la partie financement aussi. Je coordonne les commissions Projet Jeunes 64, qui sont des commissions qui regroupent plusieurs institutions, l'université, le CROUS de Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine, le département, la CAF et la MSA. Donc j'organise ces commissions, j'instruis les dossiers pour que les assos étudiantes puissent déposer des demandes de subvention auprès de Projet Jeunes 64.
Quelles sont les associations disponibles ? Combien sont-elles ? Et pouvez-vous nous décrire ce qu'elles font ?
Alors elles sont nombreuses, donc je ne vais pas pouvoir vous décrire l'ensemble des actions des associations étudiantes. Elles sont une cinquantaine répertoriées, sachant que certaines sont en sommeil, mais la majeure partie est en activité. Alors on a déjà toutes les associations dites de filière, les bureaux, les BDE, les bureaux des étudiants, étudiants en géographie, les étudiants en sociologie, les étudiants en biologie, les étudiants... qu'est-ce qu'on a en histoire de l'art, en géologie, etc. Ça, c'est des assos qui regroupent les étudiants d'une filière. On ne les connaît pas tous, les associations de filière, parce que moi, je connais celles qui viennent vers moi pour avoir des conseils ou des besoins de financement. Il y a plein d'associations de filière qui, en fait, sont un regroupement d'étudiants qui organisent des soirées, des temps conviviaux. Donc, on ne les a pas toutes, mais on sait que dans chaque quasiment filière, il y a une asso qui existe. Ensuite, on a des associations plus généralistes, c'est-à-dire qui interviennent sur des champs thématiques qui sont transversaux pour tous les étudiants, sur la question environnementale, sportive, artistique, culturelle, solidarité internationale, solidarité locale, etc. Il y a quelques assos un peu historiques de l'établissement. Typiquement, je peux en prendre quelques exemples. L'association Solès, c'est les étudiants sénégalais qui existent depuis, je pense, au moins une quinzaine d'années, voire peut-être plus, qui regroupent les étudiants sénégalais qui sont étudiants à Pau et qui organisent un certain nombre d'activités pour les membres de leur association, mais aussi au tout public. On a l'association Radio Campus, par exemple, dont vous faites partie, qui est une association étudiante qui regroupe des étudiants passionnés de médias et de radiophonie. Nous avons aussi l'association L'Arrosoir, qui propose un jardin partagé et des actions autour de la question environnementale sur le campus. Nous avons des étudiants plus type syndicat, comme Solidaire, par exemple, qui défendent les droits des étudiants. Des associations de théâtre, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, mais on a des assos dans tous les domaines. des grosses associations aussi comme l'association sportive, qui est en appui sur la question de la pratique sportive aux étudiants, en appui au service des sports. Voilà, donc on a une belle cartographie, un beau panel d'associations étudiantes dans une assez large diversité.
D'accord. Quand est-ce qu'on prend connaissance de ces associations ?
Alors nous, quand je dis nous, c'est le service vie étudiante auquel je suis rattachée. On fait un certain nombre de présentations de rentrée aux nouveaux étudiants. On tient des tables d'information sur la vie étudiante et la vie associative fait partie de la vie étudiante. Alors la vie étudiante est beaucoup plus large, hein. C'est le sport, la santé, la culture, le logement, la restauration, etc. Mais la vie associative fait partie du grand champ de ce qu'on appelle la vie étudiante. Donc il y a des tables d'infos sur la vie étudiante, il y a des temps d'accueil de rentrée, il y a des communications qui se font via les différents supports de communication, site internet de l'université où on a notamment un annuaire des associations, des mailings réguliers envoyés sur la dynamique de la vie associative sur l'établissement. Voilà, et puis on a aussi souvent des étudiants curieux, hein, qui étaient parfois impliqués dans leur cursus lycée, dans la vie associative, et quand ces étudiants arrivent sur le campus, ont tout de suite le réflexe aussi d'aller rechercher ce qui se passe. Et le grand temps après de valorisation des initiatives étudiantes sur le campus de Pau, mais c'est des choses qui vont se déployer sur les autres campus, c'est le grand festival de rentrée, qui a lieu dernière semaine de septembre en général, avec une partie festive en soirée, concert, et toute l'après-midi on a un grand village des associations étudiantes de l'UPPA qui présentent en fait là leurs activités à l'ensemble des étudiants. Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place pour valoriser la vie associative, mais il y en a d'autres à développer.
Alors comment les intégrer ? Peut-on les rejoindre en cours d'année ou y a-t-il un moment dédié aux inscriptions ?
Non, alors chaque association, nous on ne, comment dire, on ne chaperonne pas les associations, hein. Une association étudiante, en fait, est une association loi 1901, d'accord, reconnue par la préfecture, par l'État. La spécificité d'une association étudiante, c'est que c'est une association qui est composée à majorité d'étudiants dans ses organes, dans ses instances, conseil d'administration et bureaux, et qui signe la charte des associations de l'UPPA, d'accord ? Mais en réalité, une association étudiante est une association loi 1901, et chaque association, régule sa vie démocratique comme elle le souhaite. Donc, en application de ses statuts, donc en général, les associations étudiantes sont preneuses de forces vives, toute personne volontaire sera accueillie en général à n'importe quel moment de l'année. Mais encore une fois, chaque association gère ça à sa façon. Mais ça peut être en début d'année, ça peut être en milieu d'année, ça peut être en fin d'année. Je vous cache pas que les assos étudiantes sont plutôt à la recherche de forces vives. Donc toute personne qui va se manifester, en général, est plutôt accueillie chaleureusement par les assos étudiantes.
Alors, quel est l'intérêt d'y participer ?
L'intérêt pour un étudiant, à titre personnel, ça va être de s'impliquer dans la vie de campus ou dans la vie sociale de son université, de se sentir aussi impliqué à d'autres endroits qu'uniquement le parcours universitaire. C'est rencontrer des personnes qui ont des centres d'intérêt communs. Je prends l'exemple de la radio ou d'une asso qui bosse sur l'environnement. C'est pour un étudiant l'occasion de rencontrer d'autres étudiants qui sont motivés et intéressés par les mêmes thématiques. C'est d'acquérir une expérience aussi extra-universitaire qui est différente de son expérience académique. Voilà, c'est d'apprendre des savoir-faire, des savoir-être, des compétences aussi qui sont... On soupçonne souvent peu, mais faire partie d'une association, on développe des compétences nouvelles qui peuvent être aussi source de... Alors déjà d'enrichissement personnel et de satisfaction, mais présenter un intérêt aussi dans son profil professionnel après. C'est souvent de plus en plus apprécié par les entreprises ou les collectivités, les recruteurs, d'avoir un étudiant qui va avoir une expérience associative. C'est aussi un plus dans les recherches de master, souvent. Un étudiant qui a une activité associative dans son cursus de licence le fait souvent valoir au moment de postuler en master. Je pense que c'est une activité qui est émancipatrice et qui permet vraiment aux étudiants de développer plein d'aptitudes, en fait.
Donc, faire partie d'une association est bénéfique sur un CV et ça peut ouvrir des opportunités professionnelles, du coup ?
Oui, moi, je suis persuadée. Alors, peut-être pas directement parce que... si vous êtes bénévole, alors là je parle des assos étudiantes parce que des étudiants peuvent être aussi bénévoles dans plein d'autres associations du territoire. Dans une asso étudiante, ça débouchera pas forcément sur un emploi derrière parce que les assos étudiantes sont rarement employeurs. Mais par contre, ça donne des compétences et ça donne une expérience qui est à valoriser pour la recherche future d'emploi ou de stage. Et même parfois, être impliqué dans une asso, une grosse association. Alors là, des associations plus structurées, peut parfois donner des opportunités aussi, effectivement, je pense, d'emploi, oui, tout à fait. Je pense que ça ne peut être que bénéfique, voilà. Mais ça demande une certaine énergie, un certain investissement.
Est-ce que l'on peut créer sa propre association et sont-elles gérées par les étudiants eux-mêmes ?
Alors tout à fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une asso, elle est autonome et souveraine. On peut créer une association, il faut être deux pour créer une association. Voilà, et deux ou plus. Et l'idée, c'est de se regrouper autour d'un but commun, ce qu'on appelle l'objet social dans une association. Voilà, donc c'est deux ou plus de personnes qui se regroupent autour d'un objet commun qui va être X ou X objets. Voilà, et ensuite, c'est une démarche assez simple en préfecture.
Et il peut y avoir des salariés, du coup, dans ces associations ?
Alors oui, il faut savoir que le milieu associatif est un... qui fait partie du champ de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, d'accord, mais qui fait partie du champ de l'économie, voilà, mais sociale et solidaire, donc avec des logiques qui ne sont pas des logiques de rentabilité, et il n'y a pas de logique entrepreneuriale au sens traditionnel de l'économie, c'est-à-dire qu'il ne génère pas des bénéfices qui sont redistribués, en fait, aux parties prenantes de l'association, mais par contre, une association peut faire des bénéfices, c'est pas un mot sale, mais ces bénéfices vont être mis au service du projet associatif. Et effectivement, c'est aussi une puissance économique. Le milieu associatif embauche plus d'un million de personnes en France. Il y a plus d'un million de salariés dans le champ associatif, ce qui est pas négligeable. Voilà. Donc oui, on peut être tout à fait salarié d'une association.
Quelles sont les démarches à faire pour créer une association ?
Alors, c'est avant de créer l'association au niveau administratif, on travaille sur ce qu'on appelle le projet associatif. Le projet associatif, c'est l'objet dont je vous parlais il y a quelques minutes, c'est ce qui regroupe les personnes autour d'un but commun. La défense, je vais dire n'importe quoi, la défense des abeilles ou la solidarité sur la question de la précarité alimentaire. Enfin, l'objet, ça appartient à chacun. Et avant d'aller... se poser la question de la création juridique de l'association, il faut se poser la question de quel est mon projet ? Qui sommes-nous ? Pour quel but on se retrouve ensemble ? Quels sont nos moyens d'action ? Quels sont les objectifs que l'on poursuit ? Quelles sont les activités, les projets que nous mettons en place pour servir ce projet, etc. Ensuite, une fois que le projet est partagé par les membres fondateurs, c'est ce que je vous disais, c'est une simple, entre guillemets, une simple déclaration en préfecture. On organise ce qu'on appelle une assemblée générale constitutive. C'est la première assemblée générale qui regroupe les membres fondateurs, qui dit que l'association est créée. On rédige des statuts. Les statuts, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'association. On pourrait comparer ça au niveau d'un État à une constitution. C'est les grands principes généraux qui régissent le fonctionnement de l'association. Qui ne va pas forcément dans les détails. Les statuts, ce n'est pas un document qui va dans les détails. Après, on a des règlements intérieurs pour ça. Mais donc, on rédige des statuts et on dépose ça auprès de l'État. L'État reconnaît à ce moment-là la création de l'association.
Voilà. Il y a une hiérarchie, du coup, dans une association ?
Pas nécessairement, parce que... Alors, contrairement à ce qu'on peut penser... La loi de 1901, en fait, est assez floue, assez générale, en fait. C'est le regroupement de membres autour d'un projet commun. Mais on peut avoir une hiérarchie, effectivement, sur des fonctionnements assez classiques avec un conseil d'administration et un bureau. Le bureau est donc composé du président, du trésorier, du secrétaire, vice-président, vice-trésorier, vice-secrétaire. Mais on a aussi des associations qui fonctionnent en conseil collégial, où il n'y a pas de hiérarchie dans l'organisation des administrateurs de l'association, où tout le monde partage les responsabilités et assume le projet dans sa mise en place. Donc ça, c'est des choix d'organisation au niveau des instances de gouvernance qui sont à l'appréciation des membres fondateurs de l'association.
Les syndicats font-ils partie des associations ou est-ce une catégorie à part ?
Alors, syndicats étudiants...
Ah oui.
Alors, les syndicats étudiants, à proprement parler, en fait, n'existent pas. Juridiquement parlant, parce que le syndicat est une structure de défense des travailleurs. Voilà. Donc en fait, les associations étudiantes qui sont dites... Enfin, les syndicats dits étudiants sont en fait des associations étudiantes de défense des droits des étudiants. Mais juridiquement parlant, ils n'ont pas le statut de syndicat. Ils ont le statut d'association à 1901.
D'accord. Combien y en a-t-il et quels sont-ils ?
Syndicats étudiants ?
Oui.
Alors, à Pau, ils sont deux principaux syndicats, c'est l'UNI et Solidaire. Voilà. Après, au niveau national, il y a d'autres syndicats étudiants qui sont actifs, mais qui ne sont pas présents sur le campus ici.
D'accord. Les syndicats, ils sont politisés, généralement ou...
Oui, les syndicats, en général, sont politisés, oui. Okay. Oui, on va dire qu'ils sont plus de tendance... tendance plus de gauche ou de droite. Oui, c'est clairement en plus assumé. Hein. Voilà. C'est un peu la spécificité des assos étudiantes dites syndicats par rapport aux autres associations. Mais d'autres associations peuvent être aussi politisées. Si on part par exemple du principe que la protection de l'environnement est politique, une association de protection de l'environnement est aussi politique. La question politique, c'est plutôt la question partisane que vous me posez. Voilà. Effectivement, les syndicats étudiants se rapprochent de mouvances politiques, mais ils sont rarement affiliés directement à des partis politiques. Voilà. Mais après, la question de la militance associative, à mon sens, elle est politique. C'est au sens de la participation à la vie de la cité.
Est-ce que cela prend beaucoup de temps sur le temps libre ? Est-ce que c'est un grand investissement ?
Alors, ça dépend à quel niveau vous êtes impliqué. Si vous êtes au conseil d'administration ou au bureau d'une association, vous faites partie des instances de gouvernance, oui, un petit peu, mais ça dépend de l'ampleur de votre projet. Si votre association, elle met en place un événement par an, qui va être la fête annuelle, finalement, ça va être sur une période très concentrée. Si vous êtes une association qui... Je prends l'exemple des Violettes, par exemple, qui est une association qui lutte contre les VSS, les violences sexuelles et sexistes, et qui mène des ateliers toute l'année, oui, c'est une implication beaucoup plus régulière. Donc déjà, ça dépend de l'objet de votre association et des activités mises en place. Ensuite, ça dépend du rôle que vous occupez. Si vous êtes simple bénévole, entre guillemets, qui va filer un coup de main sur le festival, le concert, tel événement, ou si vous êtes au conseil d'administration, l'implication n'est pas la même. Voilà. Mais je pense que c'est du temps, mais on va dire que le retour sur investissement, en général, est bon. Enfin, il y a une vraie plus-value, une vraie satisfaction des étudiants à participer à des actions dans le cadre associatif.
Pour finir, avez-vous un mot pour les étudiants qui nous écoutent et qui sont éventuellement intéressés ? Que diriez-vous pour les convaincre ?
Je leur dirais, engagez-vous, vous ne le regretterez pas, parce que c'est une expérience humaine, sociale, politique, au sens large, comme je le disais à l'instant. Ça peut être engagez-vous dans une asso, engagez-vous dans un service civique, engagez-vous dans une action de volontariat, chez les pompiers, enfin, peu importe. En tout cas, je pense que dans un parcours de jeune adulte, post-lycée, enfin dans ces années-là, qui sont entre le lycée et l'insertion dans la vie active à proprement parler, s'engager dans un projet quel qu'il soit est toujours une expérience une expérience singulière et qui apporte toujours des choses à un endroit ou à un autre. Donc je peux que encourager les étudiants à tenter l'expérience.
D'accord. Bon, on a terminé, du coup. On vous remercie beaucoup pour vos réponses et pour votre temps que vous nous avez accordé.
Avec plaisir.
De retour pour une nouvelle interview, Stéphane, nous sommes avec Léane. Bonjour Léane.
Bonjour.
Voilà, et on va ensuite procéder à cette nouvelle interview sur une nouvelle association. Donc en premier, présentez-vous et présentez un petit peu votre association, ce que vous faites.
Alors moi je suis Léane, je suis la présidente de l'association Universné, c'est l'association de cinéma et d'audiovisuel de la fac de Pau. Je suis présente depuis 3 ans et notre projet principal c'est un festival de courts-métrages au mois d'avril.
D'accord, super intéressant tout ça. Des courts-métrages dans quel style plutôt avec un genre, avec des on va dire des thèmes précis avec une liste de règles à avoir? Comment ça se passe pour ce genre d'événement?
Alors, c'est un festival du film étudiant, donc c'est des lycéens et des étudiants qui participent. Tous les genres sont acceptés, donc on n'a pas de... Voilà. Tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut participer, donc ça peut être de l'animation, ça peut être une fiction, un documentaire, de l'expérimental. On prend les étudiants en art qui font des choses aussi.
D'accord, c'est super intéressant, c'est bien, c'est, ça a l'air d'être une très bonne chose. Vous faites, du coup, vous faites ça tous les ans?
On fait ça tous les ans. Habituellement, c'est au mois de mai, début mai. Et cette année, en fait, vu qu'à chaque fois, ça tombait sur les partiels, on s'est dit qu'on faisait ça plutôt le 11 avril, donc à la centrifugeuse à Pau. Voilà.
D'accord. Ok, bah, super. Et par rapport à votre association, qui c'est qui peut se joindre à votre association? Est-ce que c'est uniquement réservé aux étudiants ou est-ce que des gens extérieurs peuvent venir y participer?
On a plus d'étudiants, mais effectivement, des gens extérieurs peuvent venir participer. Donc, tout le monde peut être adhérent. N'importe qui. Pour participer au festival du court-métrage, il faut un certificat étudiant, donc soit lycéen, soit étudiant. On accepte parfois certains jeunes qui sont sans poursuite d'études et qui font des courts-métrages quand même.
D'accord, très bien. Et c'est entièrement gratuit ou est-ce qu'il faut déposer une sorte de don pour pouvoir accéder à l'association ou est-ce que c'est entièrement...
Pour être adhérent à l'association toute l'année, c'est 5 euros.
D'accord.
Et ces 5 euros-là, en fait, ils sont investis. On a un programme, c'est-à-dire que tous les mardis, on se réunit, on visionne des films, on fait des débats cinématographiques, on fait des ateliers montage, des ateliers stop-motion et aussi on emmène nos adhérents au Méliès. Et ces 5 euros, ça amortit pour l'année. En fait, on les emmène voir au moins 3 films par mois. Donc voilà.
D'accord, ah, c'est bien, et ce genre, on va dire, du coup, vous m'y amenez justement dans la prochaine question, une journée type dans l'association en tant qu'adhérent, ça se déroule comment en général?
En général, ils savent qu'on se retrouve à 19h le mardi, donc soit pour regarder un film tous ensemble, soit pour débattre d'un film qu'on a vu au cinéma Le Méliès, qui sont nos partenaires, soit faire un atelier pub, un atelier stop motion, apprendre à construire un scénario, apprendre à filmer... ou regarder des projets qui ont été faits par des adhérents. Voilà.
Ah, vous faites un petit peu des sortes de formations intégrées, en fait.
On essaye, en tout cas, oui. La base de l'association, elle est liée à la licence Lettres, Cinéma, Théâtre et Danse.
D'accord.
Et elle a été créée, c'était une association de licence. Et elle s'est petit à petit détachée de la fac, et maintenant on est indépendant. Donc voilà.
Ah, c'est cool que votre association ait pu devenir indépendante, c'est une bonne chose. Vous me parlez justement au tout début des concours de courts-métrages. Est-ce que dans l'année, vous avez des événements qui sont similaires à ce genre d'événement ou est-ce que vous avez uniquement juste ça?
Non, on a uniquement juste cet événement-là qui est du coup un gros événement de l'asso parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément adhérents qui participent. Voilà. Et puis c'est un festival où on fait venir un jury professionnel. Ça se dure sur toute une journée à la centrifugeuse. Donc non, dans l'année, on n'a pas d'autres événements de ce type.
Et justement, par rapport à ce concours, il y aura forcément un gagnant, j'imagine. Et quel est du coup le prix pour quand vous gagnez?
Alors, il y a 8 gagnants au total. Il y a 8 lots. Donc, il y a prix du meilleur scénario, prix de la meilleure fiction, prix de la technique, prix du jury, prix du public, prix du meilleur documentaire, et j'en oublie. Mais, donc, il y a 8 lots qu'on récupère, en fait. Donc, on constitue nos lots chez nos partenaires. Donc, nos partenaires sont Bachi Bouzouk Manga, Bachi Bouzouk BD, des places de cinéma pour le Méliès. On achète, nous aussi, des lots. Ça peut être des livres sur le cinéma. Voilà. On essaye, souvent, en plus, les étudiants ou les lycéens sont plusieurs à faire un film. Donc, on essaye de faire de jolis lots pour qu'au moins chacun ait sa récompense. Voilà. Puis, c'est l'occasion aussi de rencontrer les professionnels du cinéma. Le jury, voilà, constitué de professionnels du monde du cinéma.
C'est bien parce qu'on a du coup plusieurs gagnants et ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de réelle compétition. Il y a avant tout la passion qui parle, évidemment, la passion du divertissement et de la création. Et finalement, on va dire, entre guillemets, tout le monde est gagnant d'un côté.
Oui, nous, notre but, c'est vraiment d'encourager la création étudiante, en fait, parce qu'il y a très peu d'étudiants qui peuvent présenter leurs films. Donc vraiment, nous, on est juste là pour les encourager et leur dire, montrez-nous ce que vous faites, quoi.
Non, mais c'est une très bonne démarche, en tout cas, ça c'est sûr. En effet, comme vous l'avez dit, pas beaucoup de personnes peuvent avoir soit le temps, soit l'énergie, parce que c'est un travail assez monumental de faire un court-métrage, peu importe la durée, donc c'est vraiment une très belle chose. Du coup, ce qui vous différencie par rapport aux autres associations, c'est justement cet élan de créativité, cet événementiel par rapport aux autres.
Peut-être un peu. Après, je sais qu'il y a d'autres assos qui organisent aussi des événements hein, dans l'année. On est partenaire avec l'Arrosoir et les Violettes, notamment. Donc, on fait pas mal de choses avec eux aussi. On essaye, dans nos petites soirées, de faire parfois venir l'Arrosoir ou parfois venir faire venir les Violettes pour des débats, par exemple, sur les violences, des choses comme ça.
Mais oui, justement, je vais avoir les violettes justement en interview également. On va justement en parler. À mon avis, je pense qu'ils vont aussi vous parler de vous, à mon avis, justement. Très probable. Justement, vous avez un Instagram, il me semble. C'est bien ça. Vous avez d'autres outils pour vous retrouver ou vous communiquer?
Alors, on a un Instagram qui est libre. C'est, en général, c'est moi qui réponds. Donc, vraiment, n'importe qui peut envoyer un message pour n'importe quelle question. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, on répond à tout, que ce soit de l'aide de court-métrage. On fait aussi du prêt de matériel parfois, parce qu'on a un peu de matériel. Donc, on essaye de prêter à des étudiants qui veulent créer. Voilà. On a aussi une chaîne YouTube où sont accessibles les projets des adhérents qui ont réalisé pendant l'année. Tous les films qui ont été présentés au festival. Donc là, on a repris l'association en 2021, nous, je crois. Ça fait depuis 2021 que je suis au bureau. Donc là, on a mis les deux derniers festivals sur YouTube. Ceux d'avant, on ne les a pas, malheureusement. Et on a une fiche Google établissement avec mon numéro de téléphone. C'est pareil, s'il y a des gens qui ne sont pas allés sur les réseaux sociaux, ils peuvent me contacter par mon numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème.
D'accord. Encore une fois, c'est... Évidemment, à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas évidemment à aller sur la chaîne YouTube ou l'Instagram, on vous attend nombreux et nombreuses. Et par justement, en parlant d'auditeurs, si voilà, par exemple, un étudiant nous écoute et qui serait hésitant par rapport à l'association, mais qu'il aimerait quand même rejoindre, qu'est-ce que vous lui diriez s'il nous écoutait?
Je dirais de venir. Il peut même venir faire une soirée test pour voir si ça lui plaît, si l'ambiance, voilà. Il y a vraiment du monde, il y a du monde qui vient de n'importe quelle fac. On a des gens en sciences, on a des gens en droit, on a des gens en lettres. C'est vraiment une bonne ambiance. Tout le monde s'apprécie, tout le monde s'aime bien. Et surtout un endroit qui est très très safe. On essaye vraiment d'être le plus ouvert et le plus sécurisant possible sur plein de sujets. Et voilà, c'est un endroit où on se sent en sécurité. En tout cas, moi je m'y sens en sécurité et les adhérents aussi en général.
Très bien. En tout cas, si vous nous écoutez, évidemment, elle vient de le dire, donc n'hésitez pas à foncer, bien évidemment. Et comme, voilà, on est sur le thème de l'univers ciné, donc du cinéma, voilà, une petite question, on va dire, à part des autres, voilà. En quelques mots, votre film préféré, en simple mot?
Alors, mon film préféré, c'est Jules et Jim, de François Truffaut. Donc, c'est un drame romantique, on va dire. Et c'est le film que j'étudie pour mon master, donc en recherche. Donc, voilà, c'est un film qui m'accompagne tous les jours.
Très bien, je ne connaissais pas du tout. Je vais aller me renseigner, je pense, juste après. Et voilà, pour terminer l'interview, en toute fin, voilà, nos éditeurs, encore une fois, on communique avec eux de là directement. Qu'est-ce que vous conseillez comme film à regarder aujourd'hui aux auditeurs? Votre conseil de la journée?
Mon conseil de la
votre
journée...
Votre recommandation, plutôt.
Recommandation. Je crois que la dernière séance était hier au cinéma, mais c'était Pauvre créature de Lanthimos. Voilà, je pense qu'il faut aller le voir.
Très bien. On vous remercie bien évidemment pour votre temps votre temps. Votre temps pour cette interview. Vous avez peut-être un dernier mot à dire à nos spectateurs, à nos auditeurs?
Non, à part qu'on est une super asso et qu'il ne faut pas hésiter et qu'on est ultra disponible. Voilà. Même pour les gens qui ne veulent pas forcément adhérer et qui veulent juste participer au festival, venez. Ça va être fun.
Très bien. On remercie évidemment Léane pour cette petite interview et son temps encore une
Merci
fois.
Merci à vous.
N'hésitez pas évidemment à aller voir sur Instagram, YouTube, Université. Voilà, on espère que ça va avoir un tremplin en plus pour vos adhérents.
Merci.
En tout cas, on vous remercie encore une fois et on va passer à la suite juste pour l'émission. Alors, de retour cette fois-ci avec l'association Les Violettes, voilà, qui va un petit peu nous renseigner sur ce qu'elles font, etc. Donc justement, voilà, je suis avec Océane, c'est ça?
Oui.
Voilà, n'hésitez pas, du coup, présentez-vous et présentez-nous votre association, allez-y.
Alors, je suis Océane, la présidente de l'association Les Violettes. Alors, Les Violettes, c'est une association étudiante où nous créons des groupes de parole sur le campus de Pau à destination des étudiants qui ressentent le besoin de pouvoir parler de traumatismes qu'ils ont subis, de violences, de tout type de violences d'ailleurs. Et c'est à destination de tous les étudiants, je tiens à le préciser, les garçons comme les filles, parce que souvent les gens ont tendance à croire que nous sommes une association uniquement féministe. Or, nous ne sommes pas que féministes, c'est donc à destination vraiment de tous les étudiants, les garçons comme les filles. Et nous faisons aussi le lien entre les professionnels et professionnels de santé et professionnels du droit, et également les forces de l'ordre si besoin entre les étudiants qui sont victimes de certaines violences du coup ces professionnels là nous pouvons les accompagner, nous pouvons les conseiller, nous précisons que nous sommes pas des professionnels nous-mêmes mais que nous pouvons juste les accompagner et les conseiller. Également nous pouvons les accompagner au service santé de la fac qui peut aussi les conseiller et les accompagner dans ce genre de cas-là. Et nous faisons beaucoup de prévention sur le campus dans le cadre de beaucoup d'événements organisés par l'université, comme la fête de l'université. Nous aimerions bientôt faire les galas, donc on va essayer de voir en collaboration avec les autres associations si c'est possible. Tout autre événement, également des événements créés par la mairie comme le forum des assos ou autres. Et des événements clés comme la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes en novembre et Mars Attaque.
D'accord, très bien, c'est quelque chose de très très complet. Et vous m'avez dit justement à l'instant que c'est ouvert à tous les étudiants. Oui. Et moi je me demandais, voilà, est-ce que l'association est réservée qu'aux étudiants ou est-ce que des personnes externes peuvent venir vous rejoindre afin de vous aider justement dans tout ça?
Alors, nous tenons à ce statut étudiant car nous sommes rendus compte quand on a créé l'association qu'il n'y avait pas d'association de ce type-là sur les campus. Et nous pensons qu'il serait mieux de rester entre étudiants. Lorsque nous faisons les groupes de parole ou autres. Concernant les adhérents bénévoles, nous tenons aussi à ce qu'ils soient étudiants. Pareil pour les membres du bureau. Cependant, récemment, nous avons voté une sorte de statut hybride pour les anciens membres du bureau qui ne sont plus étudiants parce qu'ils ont fini leur année universitaire, mais qui souhaiteraient avoir quand même... encore une possibilité de mener quelques actions avec nous, puisque bon, quand on s'est investi dans le bureau, on n'a pas trop envie de partir d'un coup comme ça. Donc on a créé un statut hybride qui leur permet d'être bénévole, mais de ne participer uniquement qu'aux événements qui sont hors de l'université, donc les événements que l'on fait par exemple avec la mairie.
Voilà. D'accord, c'est une très bonne chose justement pour ça, juste comme vous avez dit, quand on s'investit sur quelque chose, si à un moment quand on part... Voilà, ça donne un petit peu une larme à l'œil, justement, que cette disponibilité que vous faites pour justement les anciens, c'est une très bonne chose. Et comme ça, du coup, il n'y a pas de dépaysement parce que vous retrouvez du coup les anciens adhérents avec qui je pense que si peu, vous entendez très très bien.
Oui.
Donc il y a cette ambiance un petit peu, pas festive, je dirais jusque-là, je dirais plutôt de bonne ambiance, bonne entente entre
Exactement.
Vous tous, autant anciens que nouveaux. Et justement, c'est ce que ça me transitionne justement sur la prochaine question, c'est justement vous. Vous avez quoi comme type d'ambiance, justement? Vous êtes plus dans le je dirais pas l'intime, vous êtes plus dans l'amical. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'ambiance, justement, aux adhérents?
Je dirais, on garde une forme de sérieux, puisque forcément, nous abordons des sujets assez sensibles.
Bien sûr.
Nous gardons quand même une forme de relations amicales, bienveillantes, que ce soit entre nous, les membres du bureau, ou avec les membres bénévoles, puisque parfois nous sommes nous-mêmes victimes de certaines choses, et aussi avec les participants au groupe de parole, forcément, un regard très bienveillant, on reste professionnel, comme je l'ai dit, mais c'est plutôt une ambiance amicale, mais qui reste tout de même sérieuse. Et lorsque l'on est en contact avec des professionnels du droit ou de la santé, forcément, là, on va garder une casquette un peu plus professionnelle.
Bien sûr. Bien sûr. J'ai vu justement, on voit sur votre Instagram que parfois vous faites venir des intervenants extérieurs et vous m'en avez parlé en intro justement de cette interview. Est-ce que c'est le genre d'événement que vous proposez souvent dans l'année? Est-ce que vous avez des choses similaires par rapport à ça?
Alors, dans l'année, toujours en fonction du budget, bien sûr, puisque certains intervenants nous font payer les interventions, d'autres non. Donc, ça va dépendre. Et de toute façon, les interventions en général ne sont pas non plus très chères, puisqu'ils ont conscience que nous sommes une association étudiante. Je dirais qu'il y a eu, il y a un an, durant tout un semestre, sans s'en rendre compte, on a fait intervenir, je crois... 4 ou 5 intervenants médecine douce ensuite on a pu faire intervenir des policiers également, des professionnels du droit comme l'association La Pavime, ensuite C'est vrai que c'est plutôt centré sur les professionnels de santé de médecine douce comme sophrologie, kinésiologie, naturopathie, etc. Mais on essaye d'un peu plus diversifier, notamment lorsque l'on a des événements clés comme le mois de novembre ou le mois de mars. On essaye de cibler des ateliers, par exemple bien-être, pour tel groupe de parole.
Oui, c'est bien parce que ce qui est excellent, c'est qu'il y a une vraie diversité dans ce que vous proposez, justement, et ça peut convenir à tous les types de profils, voilà. Justement, des personnes qui viennent vous voir.
Oui, voilà, on a fait intervenir une sexologue, par exemple, et ça a beaucoup marché puisqu'on a eu énormément d'inscrits ce jour-là. Et on avait peur que certaines personnes aient des a priori ou n'osent pas, et au final, ça a très bien marché, et ça a bien plu à beaucoup de personnes et même à nous.
Et justement, comme il y a des thèmes que vous aimeriez justement approfondir avec des professionnels, que justement au début vous étiez un petit peu comme on dit par rapport à la sexologie, un thème on a eu comme on a sur premier abord juste d'extérieur, vous êtes pas vous on se dit pas tout de suite ah ça peut être intéressant, mais sur le futur, est-ce que vous avez des thèmes que vous voulez approfondir ou même aborder?
Alors il y a des intervenants avec qui on a eu de très bons contacts et pour vous dire, certains nous ont même proposé des tarifs étudiants pour des consultations privées. Donc, il y en a qu'on aimerait bien refaire intervenir, puisque aussi les participants au groupe de parole ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui reviennent. Donc, forcément, d'une année à une autre, on n'aura pas les mêmes participants. Donc, on va proposer le même groupe de parole que l'on a proposé l'an dernier avec le même intervenant. Mais oui, en général, on arrive à garder contact avec eux et à faire d'autres projets avec eux sur le long terme, d'une année à une autre.
D'accord.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
On va dire oui, dans tous les cas. Sinon, ce que vous me dites là, c'est que justement, vous allez chaque année, justement, il y a une sorte de renouvellement avec justement des profils différents, des personnes différentes. Ce que je comprends bien, c'est ça?
Oui.
Et justement, on a un petit peu pas... On a une... Chaque année, on va dire, de votre côté, c'est plutôt des interventions... Toujours plus différents les uns des autres, parce que justement il y a quelque chose qui s'amène en plus.
Oui, c'est bien ça ? Oui, voilà, exactement.
Et justement, vous communiquez beaucoup via votre Instagram.
Oui.
On a remarqué, c'est la prochaine chose qu'on remarque, c'est évidemment votre outil premier, c'est Instagram.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut vous retrouver justement?
Alors, il y a Facebook, mais bon, on a conscience qu'on est une génération qui n'utilise plus trop Facebook.
C'est vrai.
Donc, le Facebook ne fonctionne pas spécialement bien. Et après, nous avons notre adresse mail, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est surtout Instagram. Que l'on utilise, et surtout Instagram, par Instagram que les personnes nous contactent. Donc voilà. C'est,
on va dire que c'est votre site web, entre guillemets. Voilà.
Oui, voilà.
C'est votre page de magasin d'accueil.
Exactement.
Et justement, moi je me demandais justement, est-ce que vous avez un espace où les gens, adhérents ou non, mais plutôt non adhérents, qui seraient potentiellement victimes de violences ou de choses similaires, peuvent venir vers vous et pouvoir vous en parler anonymement ou échanger simplement? Est-ce que vous avez un espace dédié à ça ou est-ce que c'était peut-être prévu à l'avenir?
Bien sûr, lorsque l'on utilise Instagram, ce n'est pas tous les membres du bureau qui utilisent Instagram. Forcément, ce sont plutôt les secrétaires qui s'occupent de la com. Mais lorsqu'il y a, par exemple, une personne qui se tourne vers nous parce qu'elle a besoin de conseils ou autre... c'est vrai qu'en général, la secrétaire ne va pas prendre de décision toute seule et ne va pas forcément conseiller toute seule, puisque nous avons chacune des différents domaines où l'on est plus spécialisé que les autres. Par exemple, il y a la secrétaire adjointe qui, elle est très centrée sur ce qui est la santé mentale, alors que certains d'entre nous n'avons pas forcément autant de compétences qu'elle sur ce domaine-là. Donc forcément, on va se tourner vers les unes et les autres, puisque bon, pour le coup, dans le bureau, on n'est que des filles pour l'instant, mais vers les unes et les autres pour prendre des conseils, pour savoir comment formuler tel message pour que ça passe mieux, est-ce que on a le bon ton, est-ce que... Donc forcément, on va se concerter, mais ça va rester que dans le cadre du bureau. Après, à l'avenir, on aimerait remettre en place des permanences, puisque nous avons un bureau à la centrifugeuse. Et lorsque l'on a, par exemple, des trous dans notre emploi du temps, des trous assez longs, on se dit que peut-être on pourrait annoncer à l'avance qu'il y aura telle personne dans le bureau de telle heure à telle heure, tel jour, si besoin de conseils ou autre. Mais ça, il faut qu'on le mette en place, il faut qu'on coordonne nos emplois du temps, puisqu'on a des emplois du temps assez différents.
Bien sûr, oui, ça va être un... Justement, en parlant d'emploi du temps, j'imagine que voilà, vous... je pense que vous cherchez peut-être du monde, justement. Par rapport à ça, parmi les étudiants actuellement qui nous écoutent, les étudiantes et les étudiants, parce que justement, vous avez apprécié, vous avez... s'il y a des hommes qui seraient intéressés, ou des femmes, peu importe, qu'est-ce que vous aurez à dire, justement, s'ils sont un petit peu hésitants et qu'ils auraient envie de contribuer, mais... Voilà, il y en a qui peuvent être encore un peu hésitants et c'est normal. Qu'est-ce que vous auriez à dire justement à ces étudiants pour pouvoir les convaincre, entre guillemets, de vous rejoindre?
Alors, n'hésitez surtout pas à venir. Nous sommes vraiment très gentils et sincèrement, nous, lorsque nous faisons intégrer des personnes dans l'association, en général, ils commencent par être bénévoles. Ça a été mon cas d'ailleurs. Et les bénévoles, on ne leur demande pas spécialement de faire des choses. À chaque fois que nous avons des événements, nous leur proposons s'ils veulent participer à tel ou tel événement. On ne s'attend pas à ce qu'ils viennent à tous les événements. On ne compte pas si tel bénévole a pu participer à tel événement ou autre. C'est vraiment comme ils le sentent et lorsqu'ils le peuvent. Qu'ils émettent le souhait de rentrer potentiellement dans le bureau... On en parle déjà entre nous, entre membres du bureau. Et par exemple, c'est déjà arrivé qu'une ancienne bénévole qui était l'ancienne secrétaire avait émis ce souhait-là. Et elle nous avait accompagnés sur un rendez-vous que l'on avait eu avec la présidence de la fac, le service com de la présidence de la fac. Et c'était une histoire de qu'elle mette un premier pied dans... qu'elle voit ce qu'on peut faire... les intervenants que l'on peut avoir qu'elle voit si ça lui plaît et si elle voudrait à l'avenir rentrer dans le bureau. Et lorsqu'elle entre dans le bureau, bien sûr, on les accompagne puisque notre AG, elle est en avril. Et à partir du mois de, disons, mi-avril, les activités de l'association, elles diminuent puisque, bon, forcément, la fin d'année approche, les examens approchent. Les vacances aussi de Pâques approchent, donc tout le monde rentre chez soi. Tout le monde est concentré sur les révisions, donc les groupes de parole, on les termine à ce moment-là. Donc vraiment, les activités sont moindres. C'est le meilleur moment pour que les nouveaux membres du bureau puissent voir tranquillement et comprendre, par exemple, la gestion des mails, la gestion des réseaux sociaux ou autres. Et à partir de septembre, ils sont prêts pour tout commencer, puisqu'ils ont eu entre avril et septembre pour se préparer et voir un peu. Et il y a toujours les AG extraordinaires si la personne décide de repartir ou pour faire intégrer un nouveau membre. C'est sûr que c'est plus difficile lorsqu'il arrive en plein mois de novembre, puisque le mois de novembre, c'est un mois où on est, full d'activités, de choses à faire. Mais on va toujours accompagner l'autre et toujours s'assurer qu'il se sente bien dans l'association, que ce soit en tant que bénévole ou membre du bureau.
Donc, très bons arguments. Donc, n'hésitez pas, évidemment, si vous êtes hésitant par rapport à... pour rejoindre les Violettes, évidemment, on vous attend nombreux et nombreuses. Mais évidemment, pour finir, est-ce que vous aurez peut-être un petit mot, un petit message, une petite prévention à donner à nos auditeurs?
Une petite prévention? Alors, je dirais qu'il, en tant qu'étudiant, il faut que l'on apprenne à prendre soin de notre bien-être, puisque nous savons que les études, c'est très stressant, quelles que soient les études, c'est très stressant, c'est très prenant. Il faut éviter de se mettre trop de pression, il faut penser à soi, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide surtout. Puisqu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent, que ce soit sur le campus, comme j'ai dit, l'espace santé, il y a nous, il y a également d'autres associations comme le planning familial ou autres. Il ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide et il ne faut pas avoir honte d'avoir vécu certaines choses puisque... nous savons très bien que la culpabilité de la victime, ça existe pour tout le monde. Donc, n'hésitez vraiment pas à demander cette aide-là et à l'accepter lorsque l'on vous la propose. Et ne vous sentez pas coupable si vous n'êtes pas en mesure à l'instant T de demander telle aide. Ça arrivera plus tard, mais du moment que vous vous relevez de l'épreuve difficile que vous vivez, c'est l'essentiel, quel que soit le temps de guérison, quelle que soit la manière dont vous avez guéri, puisqu'il faut savoir que la guérison n'est pas un processus tranquille et longiligne. Il y aura des hauts et des bas forcément, mais du moment qu'on s'en relève, c'est l'essentiel, quel que soit le temps que l'on prend pour le faire.
On vous remercie, on finit sur c'est un très beau message.
Merci.
Sur ces très beaux mots, pour remercier évidemment Océane qui est venue justement pour présenter les Violettes. On remercie de votre temps et votre énergie pour cette interview.
Merci.
Et on espère que suite à ça, des gens vont rejoindre votre cause et vous aider pour que vous puissiez grandir. On vous remercie encore une fois.
Merci à vous.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous espérons vous avoir transmis de nouvelles informations utiles à votre vie sur notre campus et susciter votre intérêt. Maintenant, les associations n'auront plus de secrets pour vous. Nous vous retrouvons prochainement pour une nouvelle émission. Bonnes vacances.